Bon matin à tous, Église Nouvelle Vie, La Prairie, est-ce que vous allez bien? Content de vous voir en grand nombre ce matin et en famille. Et je tiens à souligner, il y a des personnes qui sont ici qui ont travaillé sur ce vidéo. Jérémy Santander qui était là au piano. Il y a plusieurs équipes d'Ecom qui ont travaillé sur le vidéo et ils sont des papas. Est-ce qu'on peut les remercier pour leur talent mis au profit de l'Église? Ils font un travail excellent de faire semaine après semaine pour Dieu. Heureux d'être avec vous ce matin pour justement un dimanche spécial de fête des pères. Et réellement, c'est un privilège pour moi d'apporter ce message dans une journée que je célèbre vraiment de manière spéciale cette année. Parce que ça fait 2 ans qu'on n'a pas pu la fêter ensemble. Et je crois réellement, alors que la fête des mères, vous allez être d'accord avec moi, il y a beaucoup d'honneur qui est mis et puis il faudra en mettre encore plus, n'est-ce pas? Mais je pense que parfois, les papas ne sont pas assez honorés, ne sont pas assez appréciés de notre société, peut-être même dans l'Église. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je vais dédier le message pour eux aujourd'hui, parce que les pères sont importants, comme l'a dit Pasteur Livio tantôt. Ils sont importants pour nous, pour nos familles, pour la société, pour Dieu, pour notre Église. Et réellement, laissez-moi vous dire à tous les papas qui sont ici, et que ce soit les papas biologiques, les papas spirituels, les papas d'adoption, toutes les sortes de papas. Si vous êtes ici et que vous vous déversez dans quelqu'un, je crois réellement que Dieu veut vous honorer et il veut vous applaudir. Il est fier de vous et nous sommes fiers de vous aussi. Est-ce qu'on peut applaudir tous les papas ici ce matin et leur dire qu'on les aime? Je pense qu'on reconnaît tous l'importance des pères, mais on ne les apprécie pas assez, on ne leur exprime pas assez. Je sais qu'en parlant de fête des pères aujourd'hui, je sais que pour peut-être certains, c'est une journée difficile. Peut-être que vous auriez aimé être papa, que vous attendez en ce moment cette bonne nouvelle de l'être. Peut-être que dans les derniers temps, vous avez peut-être perdu votre papa. Ou peut-être que vous avez perdu un enfant. Et je sais que dans des célébrations comme ça, où toute la société, toute l'Église se tourne pour célébrer, peut-être que vous ici, vous êtes meurtri. Mais sachez que nous prions pour vous, nous sommes là avec vous. Et chaque semaine, il y a des gens qui passent par des situations dramatiques. Et nous sommes ici un corps. Ce n'est pas juste des gens qui se rassemblent le dimanche et qui célèbrent. Non, nous célébrons avec ceux qui célèbrent et nous pleurons avec ceux qui pleurent. Et est-ce qu'on pourrait applaudir chacun qui a vécu des moments difficiles pour leur dire qu'on est avec eux, qu'on prie pour eux, on vous aime, vous êtes important pour nous. Peut-être certains aussi, quand on entend fête des pères, vous dites, mais moi, je n'ai pas eu une bonne relation avec mon père. Peut-être certains ne l'ont même pas connu. Et lorsque vient le jour où on célèbre les pères, vous dites, je n'ai pas de raison de célébrer. Et réellement, c'est malheureux, mais c'est la réalité de plus en plus présente. Il y a une étude américaine qui a montré que de 1960 jusqu'à 2016, le pourcentage d'enfants grandissant sans père a presque triplé, passant de 8% à 23%. Et le manque d'un père est vraiment quelque chose qui peut freiner l'épanouissement d'un enfant. Mais je tiens à lever mon chapeau et à célébrer tous les pères, et il y en a beaucoup ici, qui ont vécu sans repère, sans quelqu'un, sans une figure paternelle, et qui ont de leur mieux fait pour se donner à Dieu, travailler dans une vie incroyablement parfois difficile avec des manquements, mais compter sur la faveur de Dieu pour aujourd'hui à eux d'être des papas modèles, des papas qui sont investis, de ne pas reproduire le pattern. Et ça réellement, on est fiers de vous et on veut les applaudir. Est-ce que l'Église, on peut leur dire combien on est fiers de chaque papa qui n'a pas connu l'amour d'un père, mais qui aujourd'hui le donne? Heureux de voir aujourd'hui plusieurs générations dans la même église. Et je crois que c'est le cœur de Dieu. Non pas une église générationnelle et chaque génération a son église. Non, je crois que l'église est appelée à être une représentation du corps de Dieu, de la famille de Dieu. Et chaque génération est le bienvenu. Et nous, aujourd'hui, alors que moi et mon épouse, on est ici au Québec depuis plus d'une dizaine d'années maintenant, j'ai le privilège, comme vous l'avez entendu il y a 2 semaines, d'avoir mes parents ici à la maison pour quelques semaines. Et je veux honorer mon père qui est ici normalement, je pense. Est-ce que tu es là, papa? Fais-moi un signe si tu es là. Peut-être c'est à la deuxième réunion. Là-bas? Ok, là-bas, ici, il est là-bas. Et je veux te dire combien je t'aime, je suis fier de toi et je veux t'honorer aussi aujourd'hui parce que oui, c'est la fête des pères. Peut-être que tu as fait exprès d'agencer ton voyage à la fête des pères pour que je le fasse devant tout le monde, mais non, il n'aime pas du tout ça. Mais je veux t'honorer aujourd'hui et te dire combien je crois être un homme grâce à toi aujourd'hui, grâce à Dieu et grâce à ce que Dieu a fait à travers de toi. Alors je tiens à t'honorer aujourd'hui et bonne fête, papa. C'est ça. Il y a une photo qui est là, alors qu'il y a 3 ans, mon père était ici. On a pris une photo de lui et de mes 2 garçons, parce que je suis papa moi-même d'un fils de 7 ans. Il serait vexé que j'ai dit 6 ans. 7 ans, Lenny, et Jackson, 3 ans, qui va bientôt avoir 4 ans. Et on célèbre ça, et puis c'est un de mes plus grands privilèges dans la vie d'être papa. Et vous voyez cette photo-là, je la mets parce que c'est à Nouvelleville, à Prairie, qu'on l'a prise. Et tantôt dans le hall, on va en prendre une autre avec toute la famille. Alors faites-le aussi, il y a un Polaroid qui va vous être donné, vous pourrez repartir, chaque papa aura une photo de sa famille dans son portefeuille, hein, parce que des fois on n'est pas vraiment les photos, notre cellulaire est complet, mais on n'a pas de photo physique, là vous en aurez une, alors jouez le jeu, c'est gratuit, on veut que vous célébriez votre famille, et comme l'a dit Pasteur Livio, il y a des beignes, mais pas seulement des beignes, des Krispy Kreme. Non. Si vous ne connaissez pas la différence, allez-y, c'est gratuit, prenez-en. Alors, le titre de mon message aujourd'hui, on va regarder à l'importance de la place d'un père. La place d'un père, on va regarder aujourd'hui à combien c'est pas seulement un enjeu social, mais spirituel. Combien Dieu veut équiper les pères pour devenir des hommes qui changent non seulement leur famille, mais la société et le monde. Et oui, c'est une vision très « waouh, qu'est-ce qui se passe là ?» Il va nous lancer une grande vision. Mais en fait, l'idée de Dieu pour la paternité est extraordinaire. Je sais que parfois c'est une corde sensible, mais je crois réellement qu'il y a un espoir lorsqu'on prêche la bonne nouvelle à des papas qui sont non pas parfaits, mais qui connaissent et qui veulent découvrir le Dieu qui les aide à marcher en progression. Et aujourd'hui, je ne suis pas en train de faire l'éloge de papa parfait, au contraire, et moi le premier, je ne le suis pas. Mais je crois que selon la parole de Dieu, en regardant la place d'un père que Dieu a, il y a une place pour les papas dans le cœur de Dieu incroyable, et il veut nous outiller pour que nous devenions des meilleurs père. On va regarder justement la place d'un père au sein de la famille. C'est mon premier point. La place d'un père au sein de la famille. Du commencement de la Bible jusqu'à la fin, d'un bout à l'autre, la Bible parle de l'importance des pères. Il y a vraiment quasiment des chapitres entiers qui parlent de généalogie, de la paternité, et qui a enfanté qui, et qui est le père, qui est la mère. Il y a vraiment un côté où la famille est centrale dans la Bible. Et même si vous n'avez pas lu la Bible, vous savez que la famille, le côté d'une famille équilibrée est le désir de Dieu. Mais dans une société où c'est difficile d'avoir une famille équilibrée, Dieu veut nous donner justement des outils pour que nous puissions reprendre une place que Dieu avait prévue. Et aujourd'hui, oui, je vais m'adresser au Père, mais vous allez voir, les principes de Dieu sont universels. Et chaque personne aujourd'hui va, s'il est attentif à la parole de Dieu, recevoir des principes. Est-ce que vous êtes là pour recevoir la parole de Dieu, n'est-ce pas? Ne partez pas si vous n'êtes pas papa. Au contraire, restez parce que Dieu a une parole pour vous. Du premier couple dans la Bible, il y a une famille qui est née, il y a la paternité qui a été là. Le premier livre du Nouveau Testament nous montre justement la généalogie du commencement jusqu'à Jésus. Jésus qui est le point culminant, toute la parole de Dieu, centre du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, tout pointe vers Jésus. Et alors que Jésus a été envoyé par le Père, notre Père céleste, Dieu le Père. Jésus a été envoyé ici sur cette terre et il a été confié à une famille. Et on le connaît, la mère de Jésus s'appelle. Mais on va regarder à combien c'était central la paternité pour Dieu. Justement, dans le texte de Matthieu 1, on va regarder à comment justement Dieu a pourvu un père et une mère à Jésus pour qu'il accomplisse sa mission ici. On va lire ensemble Matthieu 1, 18 à 21. Si vous n'avez pas votre Bible, il y est sur le projecteur. Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ vint au monde. Marie, sa mère, était liée par fiançailles à Joseph. Or, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit avant qu'ils n'aient vécu ensemble. Joseph, son futur mari, était un homme bon et droit. Il ne voulait pas la livrer au déshonneur. C'est pourquoi il proposa de rompre ses fiançailles sans ébruter la raison. Il y réfléchissait à ce projet quand un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit « Joseph, descendant de David, le lien paternité, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit Saint. Elle donnera naissance à un fils et tu l'appelleras Jésus. C'est lui en effet qui sauvera son peuple de ses péchés. » Amen. Jésus a été confié par Dieu le Père pour venir vivre une mission incroyable ici sur cette terre, vivre une vie sans péché, venir souffrir à la croix et prendre jusqu'à la mort de la croix, venir se sacrifier pour que nous puissions devenir enfants de Dieu. Après la mort, Dieu le Père a ressuscité Jésus-Christ et maintenant il siège à la droite de Dieu et il nous prépare une place en attendant que nous le rejoignions. Mais c'est incroyable que dans cette petite période de l'histoire, Dieu va venir confier son fils unique, la prunelle de ses yeux, il va venir le confier à un père et à une mère. En fait, techniquement, Dieu aurait eu peut-être juste besoin que Marie enfante Jésus. Marie a reçu Jésus par l'action du Saint-Esprit. Mais on va voir justement que Joseph, la paternité, ce n'est pas secondaire pour Dieu. Au contraire, c'est central. C'est même pour ça que Dieu a prévu Marie pour qu'elle soit prête à recevoir l'enfant Jésus. Mais Dieu a été chercher Joseph pour justement qu'il soit une figure paternelle dans la vie de Jésus. Joseph a eu le mandat de nommer Jésus. C'est ça qui est intéressant. Regardez ce que le texte dit. Marie donnera naissance à un fils, mais c'est Joseph qui va nommer Jésus. Dans la tradition juive, c'était intéressant que le père nomme l'enfant. Et nommer l'enfant, ce n'était pas juste on prend le prénom le plus à la mode. Vous avez tous fait 1000 sites pour trouver le prénom de votre enfant, n'est-ce pas, hein? Les papas, les nouveaux papas, on est là en train de regarder 1500 noms pour dire « Est-ce que ça va être ce prénom-là que je vais donner à mon fils ?» À l'époque, ce n'était pas ça. Tu nommais l'enfant et il y avait vraiment un côté de destinée. Et là, Dieu avait donné déjà le nom que Joseph devait le faire. Mais c'était à Joseph de nommer cet enfant. Il y a quelque chose de fort que Marie avait son rôle à jouer, mais Joseph également avait son rôle à jouer. Et je crois qu'il faut honorer les mères, et on l'a fait il y a quelques semaines. On croit à la fête des mères et on veut honorer, mais je crois réellement qu'il ne faut jamais oublier l'importance capitale, essentielle et centrale du père au sein de la famille. Dites « Amen » quand vous le voulez, si vous le croyez. Parce qu'il y a vraiment quelque chose de fort. Vous allez élever un enfant l'un ou l'autre. Non, c'est vous allez élever l'enfant l'un et l'autre. Ensemble, vous allez élever Jésus. Ensemble, vous allez pourvoir à tous ses besoins. Ensemble, il y aura un équilibre. La paternité est centrale, non pas secondaire, comme parfois on peut imaginer quand on parle de famille. Souvent, on voit la mère prendre soin des enfants, puis le père juste aller travailler pour pourvoir au niveau financier. Mais en fait, dans le plan de Dieu, l'homme, le père, est aussi impliqué dans l'éducation de ses enfants. Et pas seulement le côté où on laisse les émotions à la maman et puis nous, on vient juste pourvoir de manière financière. Non, Dieu est là et il nous montre combien la mère et le père ensemble donnent un équilibre aux enfants. Élever des enfants, éduquer une famille n'est pas le rôle de l'un ou de l'autre. C'est l'un et l'autre ensemble pour le bien de l'enfant. J'aime l'analyse de Sophie Galdier qui a écrit pour Psychologica. Le père impose une écoute différente de celle de la mère. Il est un support, une sécurité, un moyen de construction importante pour l'enfant. Le père, c'est aussi le garant de cette autorité constructive qui positionne les limites et qui fera des enfants des adultes responsables. L'enfant a besoin des deux parents bien différenciés, du père et de la mère. Chacun médiatise à sa façon son rapport au monde et contribue donc chacun à sa manière à construire sa personnalité, la personnalité de l'enfant. Donc ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est ensemble, parce que même s'ils sont différents, et j'aime le dire, les deux parents sont complémentaires. Vous devez vous souvenir sans doute qu'il y avait des forces de l'un et de l'autre de vos parents. Mais ensemble, ça faisait un équilibre qui faisait avancer la famille. Et bien sûr, on le sait, aucun parent n'est parfait. Mais en étant les deux complémentaires, il y avait quelque chose de beau qui se faisait dans la famille. Le père est appelé le protecteur de la famille également. Il doit protéger sa famille. Il a été mis pour que la famille puisse être en sécurité. C'est lui qui a un devoir de protection. Il est le protecteur de la famille. Il est l'un des deux piliers de la famille qui soutient la famille. Quand Jésus est donné, est prêté entre guillemets à l'humanité, oui, Marie est là et elle le reçoit, mais Dieu va venir pourvoir pour que Joseph, lui, prenne soin de la famille. Joseph a éduqué Jésus. Même s'il y a beaucoup plus de passages dans la Bible où on voit que Marie était là à différents événements, on sait que Joseph a joué un rôle central dans la vie de Jésus. Parce que si l'ange a été le rechercher, c'est qu'il en avait besoin. Jésus avait besoin de Joseph dans son humanité. Et est-ce que toi en ce moment, est-ce que tu vas avec l'idée de la société en ce moment qui peut, entre guillemets, dire « La famille, c'est un petit peu tout ce qu'on veut qu'elle soit. » Un petit peu comme Fais ta sauce, trouve une identité dans ce que tu veux, et puis même les rôles sont peut-être interchangeables. Fais ce que tu décides de faire, et puis on n'a même pas besoin forcément de l'un ou de l'autre. Je crois réellement qu'il faut revenir à la parole de Dieu, même si ce n'est peut-être pas aujourd'hui le courant dans lequel la société s'en va, mais je crois réellement qu'il y a la solution pour nos familles, la solution pour notre société, la solution pour notre famille, pour l'unité, parce que quand Dieu design quelque chose, c'est toujours la meilleure manière. Est-ce qu'on peut applaudir notre Dieu qui nous donne la manière de faire? La manière d'avancer. J'aime l'auteur John Tyson, qui est auteur du livre « The Intentional Father ». Et puis il explique, c'est un auteur chrétien qui explique qu'il y a quatre différents types de pères. Les premiers sont les pères irresponsables, sont juste les géniteurs. Il est ignorant complètement de son enfant, il ne veut rien savoir. Et au plus il est loin, au mieux c'est. Il appelle le père irresponsable, les quatre I. Ensuite, il y a le père intermittent, qui lui, des fois, est présent et parfois est absent. Il travaille tellement, sa carrière est la priorité, alors quand il est ici avec ses enfants, il leur donne tout ce qu'ils veulent, mais il y a un déséquilibre parce que ce n'est pas ça qu'ils ont besoin. Les enfants ont besoin de stabilité. Les enfants ont besoin, oui, qu'on les gâte et qu'on leur donne plein de cadeaux, mais il faut aussi parfois qu'on les corrige et qu'on leur adresse des choses différentes. Le père intermittent est juste là pour donner tout ce qu'il faut et ensuite il part quand ça se complique. La troisième manière d'être père, c'est le père impliqué. Ça, c'est la majorité des pères. Et puis, c'est de bons pères, ils sont présents. Quand il y a une game de soccer, ils sont là et puis ils sont en train de crier le prénom de leur enfant à se casser la voix. Souvent aussi, c'est les mères qui crient fort dans les stades. Hein? Vous avez déjà entendu? Vas-y, ma fille! C'est comme, wow. Ils ne jouent pas la Coupe du Monde pour elles, oui. Mais les pères sont là, les pères intentionnels sont là, ils sont impliqués. Ils ont des discussions des fois où ça prend tout un talk. À la sexualité, quand on voit que le petit garçon ou la petite fille commence à se dire, ben, je ne sais pas ce qui se passe, le père, il a des discussions avec son fils et il le prend en disant, voici, tu as peut-être des questions, ben, je vais y répondre. Le père, les autres pères, là, ils esquivent tout ça. Regarde, va regarder, peut-être à l'école, ils vont te donner un cours d'éducation sexuelle, vas-y. Non, le père impliqué, il est là et il veut être impliqué dans la vie de ses enfants. Mais il y a la quatrième façon d'être père, et je crois réellement que, bibliquement, Dieu veut que nous soyons de plus en plus en progression dans notre paternité. C'est le père intentionnel. C'est celui qui, non seulement, éduque ses enfants avec ce qu'il a reçu, avec les bagages, il réagit à ce que vit l'enfant, mais il ne fait pas juste réagir. Il est déjà en avance. Il a une vision à long terme pour ses enfants. Il connaît la personnalité de ses enfants. Il les écoute beaucoup. Il parle avec eux beaucoup. Il arrive à discerner c'est quand est-ce que ça va bien, quand est-ce que ça ne va pas. Il a une vision à long terme, c'est pour ça que lui, il est préparé. Il n'est pas dans la réaction, il est dans la proactivité. Il a une vision long terme. Il est un guide pour les amener quelque part. C'est peut-être celui qui n'a pas grandi avec un cellulaire dans la poche, avec Internet partout, où la pornographie est disponible et gratuite et partout. Mais il sait que son fils, lui, il aura ce défi-là. Alors lui, il ne va pas juste dire, ben, comme je n'ai rien connu, je ne peux pas te le dire. Non, il va aller et puis il va se dire, comment je peux, moi, accompagner mon fils sur quelque chose que je n'ai pas connu? Mais je crois que c'est tellement important que Dieu va m'outiller pour que j'accompagne mon fils et que je l'amène même plus loin pour que cette société, que parfois est destructrice dans certaines formes, moi, Dieu m'a appelé à être le protecteur et je vais être en avance des défis parce que Dieu va me donner des yeux ouverts. Est-ce que vous le croyez? Il y a quelque chose de fort dans un père qui est intentionnel. Il n'a pas vécu les choses, mais il va se préparer pour que ce que vivent ses enfants, lui, peuvent les accompagner. Le livre dit, si tu as trois enfants, il faut que tu sois trois pères différents. Pas d'avoir double face ou triple face, non. C'est d'être en fonction de ce que ton enfant a besoin. Tu ne peux pas juste répéter un modèle en disant, mais toi, tu as besoin de parler, toi, tu as besoin d'écouter, mais ce n'est pas grave, je n'aime pas parler, alors toi, tu vas écouter. Non, il y a un côté où il doit être intentionnel à devenir ce que ses enfants ont besoin. Mais là, vous allez me dire, mais c'est pas le rôle des enfants d'être au service des parents. Il y a comme une autorité, là, tu sais, le père, il va pas comme être tout le temps là avec ses enfants. En fait, la même autorité spirituelle qu'un père doit avoir avec sa famille est la même que Jésus avait ici. Jésus avait toute autorité spirituelle. Il avait toute puissance spirituelle. On lui devait le respect, la crainte, on lui devait la révérence, on lui devait tout. Mais qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il venir nous servir. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, jusqu'à se sacrifier pour elle. Ah mais, ce n'est pas le père la figure d'autorité comme parfois, malheureusement. Dans une sphère de l'Église, le père a été vu comme l'oppresseur parce qu'il était l'autorité spirituelle. Si on regarde bien, Dieu notre Père, même le Père spirituel, Dieu le Père, ne nous force pas, il nous laisse par amour le choix. Et il a tout envoyé, il court vers nous, comme on l'a chanté tantôt. Il est toujours en arrière de nous pour nous rapprocher de lui, mais jamais en nous forçant. Toujours en respectant notre choix. Nous ne devons pas voir le côté d'autorité spirituelle comme quelque chose qui oppresse, au contraire, c'est quelque chose qui élève. S'il y a quelqu'un qui doit venir élever les autres, c'est bien le père pour ses enfants, pour sa famille, pour son épouse, pour les gens qui sont autour de lui. L'autorité spirituelle est là pour aider avec la force que Dieu te donne, pas pour oppresser et diminuer. Et je crois réellement, et je suis vraiment fier à chaque fois que je parle avec des papas ici, qui on parle et puis on s'encourage, on se rend compte qu'on est complètement limité, mais que Dieu, lui, est illimité. Ses bontés se renouvellent. Et quand tu n'as pas été forcément un bon père la semaine dernière, ça nous arrive tous, vous inquiétez pas, quand tu n'as pas été un assez bon père, Dieu, lui, est un Père parfait qui nous renouvelle. Ses bontés ne sont pas épuisées, ses compassions, elles se renouvellent chaque matin. Combien sont reconnaissants pour un Dieu, lui, qui est parfait et qui ne change pas? Est-ce qu'on peut l'applaudir? Notre Dieu, lui, qui est parfait quand nous ne le sommes pas. La place d'un père au sein de la famille, mais la place d'un père aussi est tellement importante dans le cœur de ses enfants. C'est mon deuxième point. La couronne des vieillards, ce sont les fils et des filles, Proverbe 17:6. Et la gloire des fils, ce sont leurs pères. Vous avez déjà vu un fils qui parle de son papa avec une fierté incroyable. Quelque chose de fort. Mais il sait qu'il n'est pas parfait. Mais pour lui, il y a quelque chose de fort. La gloire des fils, ce sont leurs pères. Il y a dans les yeux des enfants, dès le plus jeune âge, il y a un côté où c'est le héros. C'est le super-héros. Mon papa, c'est le meilleur. Mon papa, c'est le plus fort. Rapidement, ils vont savoir que ce n'est pas vrai. Rapidement, ils vont savoir qu'il a aussi des défauts. Mais en même temps, pour eux, c'est le héros, le meilleur. Et alors que je regardais sur Internet des vidéos où on voit qu'il y a des papas parfois qui... Il y a une caméra qui les filme. Ils essayent tout leur meilleur pour être des bons papas et des fois, ça ne se termine pas comme c'était prévu, mais ça nous fait toujours rire. Juste pour vous faire sourire, regardons 60 secondes de papas qui essayent de leur meilleur, mais que parfois, ça fail. Avec le son. Aïe. Je peux mettre plus fort un peu. Même si vous n'êtes pas un homme, vous avez senti la dernière en disant « Oh, ça fait mal, ça nous est tous déjà arrivé. » Les papas qui sont présents ne sont pas parfaits, mais il y a quelque chose de fort de créer des souvenirs. Dans le cœur des enfants, le papa, c'est le héros. C'est avec lui qu'on veut passer du temps de qualité. Mon père est là depuis 2 semaines maintenant. Même s'il était dans le décalage horaire, il était déjà avec moi en train de dire « Regarde, on va rénover ton deck, on va rénover ça. Il y a les rénos de la salle de bain. » Mon père, en ce moment, n'a jamais autant travaillé longtemps dans sa vie alors qu'il est en vacances, il est en retraite. Mais il est là, il se dit « S'il y a du temps de qualité à faire, je vais le faire. » Mon père m'a fait aimer les rénos. Okay, je ne suis pas forcément manuel, mais en le regardant faire, on dirait qu'il sait tout faire. Plomberie, soudure, les choses, l'électricité, tout ça. Il y a comme un côté où je ne peux pas à côté son standard, mais il n'y a pas de comparaison et il va m'éduquer pour que ensuite, quand il va repartir, je saurai faire les rénos. Si vous avez une salle de bain à faire, je vais venir vous aider, n'est-ce pas? On dirait que c'est comme, vous êtes sceptique. Mais il y a un côté où, dès les premiers jours, les temps de qualité sont importants. Et puis je suis vraiment heureux de lire des articles où on voit que les pères québécois ici sont les champions dans l'engagement paternel. On vient de terminer, en fait ça se termine aujourd'hui, la semaine de la paternité au Québec ici où on célèbre la paternité, c'est vraiment fort. Et dans la presse, ça marquait, les pères prennent de plus en plus des congés parentaux. On est bénis ici au Québec d'avoir au minimum 5 semaines de congés paternité pour les hommes. Il y a beaucoup de pays où ils rêveraient que les hommes, ils ont 2-3 jours pour passer les premiers jours avec les enfants. Mais il y a vraiment quelque chose où on est béni et puis il faut vraiment reconnaître. On doit être reconnaissant pour un gouvernement qui laisse les pères passer du temps en famille. Et puis je crois réellement, alors que parfois on critique beaucoup le gouvernement, il faut se dire merci au gouvernement pour laisser les 5 semaines aux pères pour passer des temps de qualité dans les premiers jours qui sont tellement importants. L'article de la presse disait, avec les congés parentaux, les pères voient ce qu'est de s'occuper d'un bébé. Ils développent des compétences, une confiance, un attachement et restent beaucoup plus impliqués par la suite. La statistique disait cette semaine, les pères québécois sont des champions dans l'engagement paternel grâce au congé paternité, au CPE, service pour la famille. Meilleurs, ils sont meilleurs au Canada complet et meilleurs en Amérique du Nord. On peut s'applaudir, s'il vous plaît, vraiment. On t'a passé sur la tête des pères pour les honorer quand il faut les honorer réellement. À leurs yeux, dans les yeux d'un enfant, le père c'est le héros. Mais je crois réellement que quand eux nous regardent, ils doivent voir dans nos yeux que nous sommes leurs plus grands fans. C'est pas juste que toi, je suis ton super héros et tu vas voir, je suis comme le meilleur. Non, non. Il faut que nos enfants puissent voir dans nos yeux que nous les supportons, nous les encourageons, nous sommes fiers d'eux, peu importe les situations. Nous les aimons inconditionnellement, comme à l'image de Dieu notre Père, il nous aime inconditionnellement. Leur plus grand fan, c'est Dieu le Père qui montre comment être présent dans des moments importants. C'est Dieu le Père qui s'est révélé lors du baptême de Jésus. Alors que Jésus a vécu 33 ans sur cette terre, il a eu 3 ans de ministère pour justement former ses disciples et aller jusqu'à la croix et changer l'humanité au complet. Mais lors de ses 30 ans, alors que c'est son baptême, c'est comme son intronisation dans sa vie ministérielle, c'est le moment officiel où il prend les commandes du ministère dans lequel il va se déverser dans 12 apôtres qui vont changer la face du monde. Alors que Jésus est là, il fait un baptême, il y a peut-être quelques centaines de personnes qui sont là. C'est pas un événement où tout le monde dans la Coupe du Monde vient dans un stade et voit, non, non. Mais le Père est là et il se révèle. Voici ce que le texte dit, Matthieu 3, 16. « Aussitôt après avoir été baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit pour lui et il vit l'Esprit de Dieu descendre sous la forme d'une colombe et venir sur lui. En même temps, une voix venant du ciel fit entendre ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. » C'est incroyable parce que Dieu nous montre comment il était là présent et il donna des paroles de vie à Jésus qui étaient tellement importantes pour Jésus dans son humanité, d'entendre que Dieu était en arrière de lui pour l'encourager dans l'appel qu'il y était. Dieu manifeste sa présence en étant là. La présence de Dieu était là lorsque Jésus était là. Le Père était là pour le Fils. Il équipe Jésus par son esprit. Il y a comme une colombe qui descend sur lui, symbole d'une onction qui vient pour le ministère que Jésus devait accomplir. Il y avait quelque chose de fort dans ce moment, hyper symbolique, mais tellement puissant. Notre humanité se jouait à ce moment-là quand Jésus comprend complètement que le Père l'envoie dans cette mission et va l'outiller. Et Jésus savait depuis le début que sa mission ne serait pas facile, mais d'entendre son Père être là présent et lui dire « En toi, j'ai mis tout mon Fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. » Il y a des affirmations de paroles de vie, comme on l'a vu il y a quelques semaines. On a entendu que les paroles donnent la vie ou donnent la mort. Là, le Père lui donne des paroles de vie. « Tu es mon Fils. » Il y a comme une affirmation identitaire. « Tu es mon Fils, je te reconnais. » C'est pas « je te laisse aller et puis on se verra ». Non, je suis avec toi et je te reconnais. Tu es mon Fils bien-aimé. Il y a une affirmation d'un amour inconditionnel. Le Père le rappelle à Jésus. Imaginez, Jésus était parfait. S'il y en avait bien un qui n'aurait pas eu besoin que son Père lui rappelle qu'il était son Fils bien-aimé, c'est bien Jésus, vrai? Alors imaginez si Jésus a eu besoin d'entendre ces paroles. Combien nos enfants et vous avez besoin d'entendre des paroles de vie? Et Dieu vous donne, parfois je prie pour ma famille et puis je dis « Seigneur, montre-leur combien ils sont importants pour toi. » Des fois je prie pour mon épouse, je me dis « Seigneur, montre-lui sa valeur, combien elle est incroyable. » Et Dieu me rappelle par son esprit « C'est par ta bouche que je vais leur dire. Est-ce que tu es un prophète dans ta maison ?» Puis comprenez-moi bien, je ne suis pas là à donner des titres à tout le monde, mais est-ce que tu es celui qui parle de la part de Dieu dans ta famille ? Parce que si tu es un père aujourd'hui, je crois réellement, qui a un leadership spirituel et Dieu veut donner une parole pour que tu puisses bénir ta famille. N'attends pas que le pasteur le fasse. Tu dois le faire. Tu dois prendre ton rôle au sérieux parce que si le Père l'a fait pour Jésus, tu dois le faire pour tes enfants. Est-ce que quelqu'un dira Amen? Tu es mon fils bien-aimé, affirmation d'un amour inconditionnel qui ne dépend pas des performances. Puisque Jésus n'avait encore techniquement rien accompli, Dieu est en train de lui dire « Je suis là et je t'aime, quelles que soient les circonstances ». Et il termine en disant « qui fait toute ma joie ». Il y a comme un symbolique de relation harmonieuse qui est là. C'est fort, toutes ces paroles-là, en une seule phrase, Dieu vient nous montrer le modèle parfait de ce que doit un père doit être. Il doit être présent, il doit affirmer des paroles de vie, il doit outiller son fils et doit lui dire avec identité qu'il est son fils, qu'il est bien-aimé et qu'il fait toute sa joie. Il y a des paroles que Dieu a données qui sont des paroles de vie, mais je crois réellement que nous qui sommes imparfaits, devons aussi donner des paroles qui ramènent la vie. Est-ce que tu es un père aujourd'hui qui a de la facilité à demander pardon ? Dieu le Père n'a jamais dû demander pardon à Jésus. La Trinité est parfaite, complète en elle-même. Mais il y a un modèle incroyable que Dieu nous montre que nous devons demander pardon, pardonner ceux qui nous offensent, comme Dieu nous a pardonné. Est-ce que tu es quelqu'un à qui la demande de pardon est facile à faire ? Et peut-être que tu vas me dire, c'est assez difficile pour moi. Si c'est difficile pour toi, en général, ça va être encore plus difficile pour toi avec tes enfants. Et vous le savez, puis j'essaie d'être un papa le meilleur que possible, mais réellement, toutes les semaines, je me dis, t'aurais pas dû faire ça, Ben. T'aurais pas dû dire ça. T'aurais pas dû agir comme ça ou réagir comme ça. Et toutes les semaines, je demande pardon à Dieu. Seigneur, désolé pour mes manquements. Viens m'outiller. Mais je peux pas juste demander pardon à Dieu. Il faut que je demande pardon à ceux aussi que j'ai blessés. Et réellement, rapidement, avec Sophie, quand on a, je ne suis pas quelqu'un à la base qui demande pardon. Je suis quelqu'un d'orgueilleux, peut-être comme tous les hommes. Dites pas amen, surtout pas les femmes. Mais il y a comme un côté où demander pardon, c'est comme un signe de faiblesse. Mais rapidement, avec Sophie, on s'est rendu compte que quand on blessait nos enfants, même non intentionnellement, vous me comprenez, de manière non intentionnelle, eh bien, il fallait qu'on leur dise de manière intentionnelle qu'on était désolé. Excuse-moi, j'ai fait quelque chose qui n'était pas bien. Je suis désolé. Je te demande pardon. Papa n'a pas bien agi là. Et je vous le dis, il y a eu même des fois où, devant les enfants, je devais demander pardon à Sophie parce qu'il y avait une situation, on s'était énervé. Et je crois que c'est très sain de demander pardon dans le couple pour que les enfants voient combien est une relation harmonieuse. Pas parfait. Quelqu'un va dire, non mais là, ça veut dire que vous réglez votre linge sale en public. Non, pas du tout. Mais parfois, il y a des offenses publiques au sein de la famille qu'il faut une rétribution publique en disant, regarde, vous m'avez entendu dire ça, j'étais énervé, je ne voulais pas l'être, puis ça a dépassé, puis je vous demande pardon, puis je demande publiquement. Je crois réellement que c'est sain. C'est pas facile, mais c'est sain. Et je crois réellement que, alors que Dieu nous montre combien les paroles sont des paroles de vie, il faut que nous disions des paroles qui ramènent la vie. Nos enfants voient comme leurs héros, mais ils savent que nous sommes humains. Sachez leur demander pardon, parce qu'ils apprendront sur le modèle que vous allez leur montrer. J'ai noté ceci comme cela. Demander pardon à nos enfants ne fait pas de nous des faibles, au contraire. Nous devenons plus forts à leurs yeux. Et je vous le dis, ce n'est pas juste quand ils ont 2-3 ans. Non, il n'est jamais trop tard. Si en ce moment, tes parents ou grands-parents, et puis que tu te dis, il faudrait vraiment que je rétablisse, là peut-être l'Esprit de Dieu te parle en ce moment en disant, regarde, il faudrait que tu rétablisses ça. Il n'est jamais trop tard. Et Dieu donne une dose d'amour et de pardon pour que nous puissions le distribuer. Combien peuvent applaudir notre Dieu qui comble nos manquements? C'est Stéphane Laporte qui expliquait hier dans l'article, il disait « L'amour paternel peut faire autant de bien aux enfants qui le reçoivent qu'au père qui le donne. » Quand on vit une relation harmonieuse selon la parole de Dieu, il y a quelque chose de beau qui prend place. Non, on n'est pas parfait, mais on est en progression et Dieu nous aide de jour en jour. C'est pour ça qu'il faut protéger le couple également. Le père n'est pas seulement là pour protéger les enfants, il est là pour protéger le couple. Il y a une corrélation incroyable dans les relations parents-enfants, père et enfant. Dans comment le père a parlé à la mère des enfants. Les enfants expliquent que parfois leur relation avec leur père est difficile parce que leur père n'avait pas forcément une bonne relation avec la mère. Et là, je ne peux pas parler de la paternité sans parler du couple et du mariage. C'est trop important, c'est trop central pour Dieu. Et je sais que c'est difficile d'aborder ces thèmes-là en 2022. Mais je crois réellement que Dieu, à chaque fois qu'il parle de ça et qu'il confronte, il y a un espoir. Et même si aujourd'hui vous dites, tout ce que j'ai voulu bâtir, justement, comme famille, comme mariage, tout a comme brisé. Je crois que Dieu a un espoir pour toi en disant, si tu me laisses reprendre tout le contrôle de ta vie et si tu viens m'abandonner ta vie à chaque jour, je vais faire de toi quelque chose de magnifique. Et tu seras un agent de paix là où il y a eu division. Et réellement, il y a quelque chose de fort. Alors que le père doit être appelé à protéger aussi le couple. Honores-tu ton épouse devant tes enfants? Honores-tu de ta bouche les gens autour de toi ? Et là, je parle peut-être à des cas, et puis je le sais, il y a des personnes ici qui ont voulu avoir un mariage magnifique, puis ça a comme brisé. Et là, en ce moment, tu entends ça, et puis tu dis, garde, mais même séparés, est-ce que tes enfants t'entendent respecter la mère de tes enfants ? Parce que tu es un père, ils sont les enfants. Ils n'ont pas à prendre parti. Ils n'ont pas à vivre la tension. Non, est-ce que toi, tu honores ? Et peut-être quelqu'un va dire, oui, mais tu ne sais pas de l'autre côté ce qui se dit. Peu importe, mais toi, devant Dieu, est-ce que tu es clean à dire, j'honore la mère de mes enfants ? Et même si oui, il y a des torts et puis c'est difficile, est-ce qu'en ce moment, devant Dieu, tu te dis, ce qui sort de ma bouche, c'est juste quelque chose qui va bénir, qui va apaiser, qui va être un agent de paix, au lieu d'être attisé et de faire de mes enfants des gens qui vont subir ce que moi, je subis ? Il y a assez de victimes déjà là dans la situation. Ne fais pas faire que tes enfants reçoivent des paroles de mort de l'un ou des deux parents. Et réellement, je crois que Dieu veut rappeler à quelqu'un aujourd'hui, sois un homme qui se tient droit. Joseph avait le droit de réprimander Marie parce qu'elle était enceinte sans qu'il soit marié. Puis à l'époque, c'était un scandale. Mais voici ce que le texte dit. Joseph décida de ne pas déshonorer Marie. Alors il voulait faire ça en secret. Joseph, il n'avait pas encore reçu toute la vision de Marie et puis enceinte du Saint-Esprit. Puis pour lui, si pour nous parfois on dit ça, on dit « waouh, c'est comme si on naturel ». Imaginez-lui, ok ? Ta femme qui vient te voir en disant « je suis enceinte, mais c'est le Saint-Esprit, c'est comme difficile à croire ». C'est pour ça que Dieu doit envoyer un ange. Mais Joseph, avant l'ange, il avait décidé d'honorer sa femme, celle qu'il aimait. Est-ce que toi, en ce moment, tu cherches à honorer, même si tu as vécu des choses complètement difficiles et puis que tu es complètement surpris ou c'est complètement anti ce que tu pensais, est-ce que tu décides de rester droit devant Dieu ? Parce que réellement, il y a comme un honneur que Dieu veut donner à des pères qui se tiennent droit, même séparés, mais qui parlent bien de la mère de leur enfant et qui gardent et qui essayent au maximum de garder l'unité. C'est la parole qui dit, si ça ne dépend que de toi, sois en paix avec tout le monde. Les autres auront à rendre compte pour eux. Mais toi, en ce moment, aujourd'hui, c'est peut-être Dieu qui te rappelle. Toi, sois droit devant Dieu et devant les autres, que personne n'entende de ta bouche quelque chose qui rabaisse, au contraire. Joseph n'a pas voulu la déshonorer. Et alors que, je termine avec ce point, la place d'un père devant Dieu, alors que les musiciens vont s'approcher. La place d'un père devant Dieu est suprêmement importante. Ils ont une place devant lui incroyable. Si toute la famille regarde au père, s'il a une place centrale et non secondaire, lui aussi doit se tourner vers son père. Et Dieu est notre père à tous. Il est notre père spirituel. J'ai vu ce matin une de mes amies sur Facebook mettre un texte incroyable. Elle dit « Je n'ai jamais connu mon père, mais depuis le jour de ma naissance, j'ai toujours eu de la nourriture, des vêtements et un toit. » Elle s'adresse à Dieu. « Je n'ai jamais sauvegardé le contact papa dans mon cellulaire. » Parce qu'elle a grandi sans papa. Mais j'ai toujours eu accès 24 heures sur 24 en fermant les yeux à mon papa du ciel. Je n'ai jamais eu un câlin réconfortant d'un père aimant, elle dit. Mais je suis toujours accompagnée du Saint-Esprit qui me console à chaque occasion. Elle termine en disant, en cette fête des pères, je veux remercier Dieu qui est le meilleur papa pour moi. Il m'a toujours devancé avec des méga surprises, me donnant bien plus que je ne l'aurais imaginé. Je n'aurais jamais pu avoir un meilleur papa. Je t'aime. Il faut reconnaître aujourd'hui, alors qu'on honore les pères, il faut que, premièrement, l'Église vienne et honore notre Père spirituel. Parce que même si on a eu des manquements dans cette vie ici, Dieu a toujours surabondé. Là où le péché abonde, là où les manquements, les échecs, les erreurs, les paroles qui ont été dites étaient destructrices, Dieu a toujours veut continuer de surabonder. Peu importe ce que tu as vécu avec la paternité, Dieu veut te dire il y a un espoir aujourd'hui parce que là où est déclaré le nom de Jésus dans ta vie, il y a toujours un miracle qui prend place. Et si en ce moment tu es en attente d'un miracle, proclame le nom de Jésus dans toutes tes situations. Son nom est plus haut, son nom est plus grand, son nom est plus puissant que tout. Et aujourd'hui, alors qu'on regarde la place d'un père devant Dieu, la place d'un père est suprêmement importante. Quand je crois que je n'y arriverai pas en tant que papa, quand je sais que je n'ai pas été assez bon devant Dieu, moi, Père, j'arrive et je reçois du Père tout ce que j'ai besoin. La dose d'amour, de patience, de pardon, de maîtrise de soi, je la reçois devant Dieu. Mes enfants me voient comme un super-héros parce qu'ils sont enfants et qu'ils ont juste 7 ans. Et au plus ils vont grandir, au plus ils vont voir que c'est pas si vrai que ça. Mais en fait, ils doivent me voir aller devant Dieu parce que je ne suis pas le super-héros qu'ils croient. Le seul héros dans la famille, c'est Jésus à travers moi qui fait quelque chose. Et moi, devant Dieu, je dois aller chaque jour à genoux dans sa présence pour dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Si ma famille a besoin de moi, et puis on le voit, le rôle d'un père est suprêmement important. Mais il y a réellement un côté où tu ne pourras pas accomplir cette mission comme Dieu te le demande sans que tu ne viennes et être renouvelé, complètement restauré par Dieu. Un cœur nouveau, un cœur de pierre, non, je vous donnerai un cœur de chair. Un père qui n'a pas d'émotion, Dieu va te donner une émotion, tu vas pleurer dès que tu vas voir ton enfant sourire. Il y a comme quelque chose de fort que Dieu veut que nous puissions venir être restaurés, guéris même dans sa présence. Devant Dieu, la place du père devant Dieu, c'est là où il est en sécurité. Sa place est à genoux. Parce que Dieu est présent là où ses enfants viennent et veulent l'honorer. Comme Jésus, alors qu'il terminait sa mission sur cette terre, dans le jardin de Gethsémané, là où il devait prendre la décision d'aller à la croix ou pas. À genoux, en train d'implorer son Père de la présence, de dire, mais qu'est-ce qui se passe? C'était l'heure la plus sombre de la vie de Jésus. Sans doute, les théologiens disent que c'est à ce moment-là, en fait, que se jouait le destin de l'humanité. À la croix, il avait déjà décidé d'y aller. Alors, il subissait sa décision, mais là, il y avait une décision à prendre. Mais oui, il a pris sa décision. Les plus grandes décisions de la vie de Jésus étaient prises à genoux en cherchant la volonté du Père. Si Jésus avait besoin de passer du temps à genoux devant le Père spirituel, le Dieu le Père, toi et moi, nous avons encore plus besoin de passer du temps dans sa présence, à être renouvelés. Tous les pères qui se tiennent à genoux devant Dieu se tiendront debout et victorieux dans n'importe quel combat. C'est dans la présence de Dieu, devant Dieu, que les pères retrouveront l'autorité spirituelle que Dieu veut leur donner. Et comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas une autorité pour oppresser, au contraire, c'est une autorité pour élever, encourager, pardonner, montrer une mesure de grâce, de parole de vie. Modèle suprême, c'est Jésus. Jésus a dit dans Matthieu 19, 14, Jésus dit, « Laissez les petits-enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Qu'aucun papa aujourd'hui ne puisse être un frein à empêcher ses enfants d'aller vers Jésus. Au contraire, que nous soyons en train de les pousser vers Jésus. Que nous puissions prendre l'autorité spirituelle dans nos foyers. Pas juste la déléguer à maman ou à NV Junior. En passant, ils font un travail incroyable. Et puis tous les papas et tous les hommes qui sont à NV Junior pour montrer une figure paternelle avec les monitrices, les moniteurs, c'est incroyable. Je suis vraiment fier de tous ceux qui... C'est souvent un ministère, entre guillemets, où les femmes aiment plus s'impliquer. Mais à Nouvelle-Ville, à Prairie, je regarde le nombre d'hommes qui s'impliquent là et je suis fier. Parce qu'on a compris le rôle d'être des figures d'hommes de Dieu. Non pas parfaits, mais en progression. Pour montrer aux enfants, vous pouvez compter sur un père, sur une mère. Et je crois réellement que l'Église doit être là présente dans les familles où le père n'a pas été présent. Et combien d'hommes ici sont des mentors pour d'autres? Peut-être des fois, il y a des personnes ici qui n'ont pas eu la chance de recevoir un enfant dans leur famille, mais qui sont des pères spirituels et qui encouragent. Et il y a réellement quelque chose, même parfois, aussi pour ma situation. Des fois, ma famille était loin, mais ici à l'église, je retrouvais des hommes de Dieu qui venaient m'aider, qui venaient me soutenir. Et il y a réellement quelque chose dans l'église locale qui est belle. Parce que non, elle n'est pas parfaite, mais elle est selon le modèle de Dieu. Et nous arrivons et nous sommes encouragés comme aujourd'hui à dire, chacun d'entre nous venons à genoux devant Dieu parce que c'est là, dans sa présence, que nous retrouvons tout ce que nous devons avoir. La protection spirituelle que le papa doit faire, ce n'est pas juste être le plus fort pour protéger des méchants. Non, en fait, la protection, elle est spirituelle. Prie pour ta famille. Proclame la vie dans ta famille. Réclame tes enfants pour Dieu. Sois un guerrier spirituel. Parce que chaque homme de Dieu a une place devant le cœur de Dieu et Dieu donne et Dieu honore. Est-ce que vous le croyez? Est-ce qu'on peut fermer nos yeux quelques instants alors que je vais prier? Et encore cette semaine, j'étais au téléphone avec un des membres de l'église ici qui est en train d'accompagner son père dans les derniers jours de fin de vie. Et il m'appelait et puis il me disait, c'est incroyable parce que mon père a accepté que je prie avec lui et puis qu'il fasse la prière de repentance. Et j'ai aucune idée du background de son papa, mais il y avait comme une dans le moment le plus difficile de la vie d'un enfant, de voir son père partir, il avait comme un espoir de dire, oui, mais il y a une lumière qui jaillit dans cette noirceur et mon papa veut s'approcher de Dieu. Alors j'ai prié avec lui, on a prié avec lui, c'était incroyable parce qu'on se voyait, nous, en étant des hommes adultes, non, en étant tellement en ayant besoin de Dieu, en réclamant sa faveur. Seigneur, aide-nous juste à être des lumières ici pour nos familles. Je crois réellement que Dieu veut aujourd'hui te redonner l'espoir. Peu importe ce que tu as vécu, peu importe tes défis en ce moment, Dieu veut que tu sois une lumière qui brille au sein de ta famille, dans ta famille, dans ta famille élargie, dans tes amis. Il veut que tu sois le modèle qu'il a prévu pour toi. Tu as une place importante dans son cœur. Dieu est le père des orphelins et le défenseur des veuves, psaume 68 nous dit. Psaume 103 dit « Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. » Si aujourd'hui tu te dis « Oui, j'ai besoin de Dieu, j'ai besoin du Père. » Dieu veut te donner tout ce que tu as besoin. Et pas seulement pour les papas, pour chaque personne ici. Si quelqu'un comprend que Jésus a été le Fils de Dieu envoyé sur cette terre, vivre une vie parfaite pour venir prendre notre place, nous qui étions pécheurs et imparfaits, Jésus a donné sa vie pour que nous puissions recevoir l'identité d'enfant de Dieu. Et on n'est plus défini par nos fautes ou nos échecs ou nos erreurs ou nos manquements. Non, on est défini par ce que Jésus a fait à la croix. C'est pour ça que quand Dieu te voit aujourd'hui, il voit quelqu'un de justifié. Si tu as donné ta vie à Jésus en le reconnaissant comme Sauveur et Seigneur, aujourd'hui tu peux t'approcher de ton Père spirituel. Tu peux venir courir dans ses bras parce que Dieu ne te refuse pas. Au contraire, il t'accueille, il est là, il te cherche. Il n'y a aucune ombre qui est trop sombre pour que Dieu te recherche. Même si tu penses être loin de Dieu, son bras n'est jamais trop court. Fais juste appel à lui et Dieu va te prendre dans ses bras et te ramener à la maison. Et alors que je termine cette matinée et puis après on va célébrer ensemble, on va communier, on va manger, on va célébrer. Je veux vraiment prendre la dernière minute de ce message pour peut-être faire un appel à quelqu'un. Qui t'es là peut-être ici et puis tu te dis « je n'ai jamais fait la paix avec Dieu ». Et je comprends aujourd'hui qu'il y a un Père spirituel, hein. Dieu le Père est au-dessus de tout et puis il a une volonté, un amour que je rentre à la maison, je revienne à lui. Je sois réconcilié avec mon Père. C'est aussi simple qu'une prière de repentance. Seigneur, j'ai besoin de toi, je le reconnais aujourd'hui. J'ai voulu vivre ma vie seule, mais je reconnais que tu es là et que tu désires que je sois réconcilié avec toi. Je te demande pardon pour mes péchés, je te demande pardon pour mes erreurs. Et même si j'ai encore plein de questions sur toi, je veux reconnaître Jésus comme mon Sauveur et comme mon Seigneur. Parce que c'est lui qui m'a réconcilié avec le Père. Et qui me donne un espoir dans cette vie et dans la vie plus future, même après la mort, de vivre dans sa gloire éternelle. Alors que tout le monde a les yeux fermés, c'est entre toi et Dieu. Si c'est ton désir aujourd'hui de dire « Ouais, je dois revenir à Dieu, je dois revenir dans sa présence, je dois revenir à la maison », fais juste lever ta main. Si tu es repentant ce matin, juste lever ta main en disant « Moi, j'ai besoin de Dieu ». Merci pour les mains qui se lèvent. Merci pour les mains qui se lèvent. Hommes, femmes, plus jeune, moins jeune, merci pour les mains qui se lèvent. Si tu dis oui, j'ai besoin de Dieu aujourd'hui, que Dieu me vienne en aide par son esprit, qui change mes pensées, qui change mon entendement et que je sois un père selon le cœur de Dieu. Merci pour les mains qui se lèvent. Seigneur, je veux te prier pour chaque personne ici parce qu'on a tous besoin de toi. Seigneur, oui, on parle des pères aujourd'hui, mais en fait, notre besoin est universel. On a un vide dans notre cœur que seule la croix peut combler. Seigneur, on veut reconnaître Jésus aujourd'hui comme notre Sauveur. Il a pris la place sur la croix pour que nous puissions être réconciliés avec toi. Père, pardonne-nous pour nos fautes, mais merci pour ton pardon. À la croix, tu as déjà pardonné l'humanité. Seigneur, nous n'avons qu'à recevoir ce pardon. Et aujourd'hui, chaque personne qui a levé la main, ou même dans son cœur, peut-être qu'il l'a fait. Seigneur, a reçu ton pardon et tu veux venir faire une œuvre incroyable. Alors, Saint-Esprit, prends ta place aujourd'hui alors qu'on a parlé de ta parole. Ta parole vient libérer parce qu'elle est la vérité. Viens donner un espoir à celui en ce moment qui est désespéré. Viens, Seigneur, rappeler l'identité à celui en ce moment qui ne sait plus qui il est. Donne, Seigneur Jésus, ta parole pour que ton Église avance et qu'elle soit une lumière comme tu l'appelles à l'être. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Et tout le monde dit un grand et dernier Amen. Est-ce qu'on peut applaudir notre Dieu qui est là, présent?